Voilà, on va reprendre un petit peu cette réflexion sur le travail. Vous vous souvenez qu'hier, on a vu un petit peu cette radicale nouveauté entre la conception, j'allais dire, antique du travail comme étant en quelque sorte quelque chose d'indigne de l'homme. Seuls les esclaves pouvaient travailler dans la tradition grecque, ou l'idée du travail rattachée à un instrument de torture dans la tradition romaine, à cette révolution judéo-chrétienne qui voit dans le travail de l'homme une dignité extraordinaire parce qu'il devient co-créateur avec Dieu, qu'il permet de développer cette création que Dieu lui a remis entre ses mains en ébauche, que l'aspect du travail dans son côté pénible est en fait pas à l'origine même du travail et n'altère en rien la dignité du travail humain, rend juste la chose un peu plus difficile. Les Grecs avaient deux mots pour définir ça. Il y avait le mot ergon, qui était l'aspect créativité du travail, et l'aspect ponos, qui était l'aspect pénibilité du travail. Et donc il y avait ces deux aspects qui étaient pris en compte dans la conception du travail: l'ergon, la créativité, l'inventivité, la participation à l'œuvre créatrice de Dieu, et puis le côté ponos, l'aspect pénibilité, l'aspect ascétique du travail, qui appartient véritablement à la réalité. Donc vous voyez, toute logique aujourd'hui éducationnelle qui voudrait réduire au seul ludique et au seul plaisir l'apprentissage de je ne sais quoi. Moi j'essaie d'apprendre des langues comme ça, c'est bon, on devait mettre des cassettes et on dormait avec les cassettes, et le lendemain, de soir, parler la langue. Ça n'a jamais marché, je peux vous dire. Hein. Le russe, j'en parle pas un mot. Donc, tout apprentissage exige un effort. Tout travail exige un effort. J'aime beaucoup cette réflexion de Maurice Béjart, vous savez, le grand danseur et chorégraphe, qui disait: je crois que l'ascèse est une des choses principales pour le développement de l'être humain, et que l'ascèse est nécessaire à la construction d'un art, quel qu'il soit. L'ascèse consiste à choisir perpétuellement l'essentiel. C'est en gardant que l'essentiel et le nécessaire que l'on trouve tout à coup les forces de la vitalité et de la vérité. Pour parler simplement du métier de danseur, un danseur est un être qui a commencé entre 10 et 14 ans à faire une série d'exercices chaque matin. Et il les fait toute sa vie, sans aucun jour d'interruption, tous les matins. Il s'impose une espèce de discipline au départ qui lui permet de trouver sa plus grande liberté. Finalement, quand on me dit « mais qu'est-ce que la danse ?», je réponds à l'échelon des gens qui ne savent pas, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. À l'échelon des très bons danseurs, je leur dis « c'est avoir une discipline de 10 ans ou de 15 ans et de faire des choses très codifiées ». À l'échelon du véritable danseur, je lui dis « c'est se mettre debout et faire n'importe quoi, mais après avoir passé 20 ans d'ascèse ». C'est retrouver l'innocence et la liberté, mais avec un travail préliminaire. Et il continue par une réflexion très belle. Le danseur idéal, ce serait un être libéré, loin de notre civilisation. Je crois qu'actuellement, le drame de l'époque consiste à faire croire aux gens qu'en multipliant leurs besoins, on augmente leur joie. En réalité, on augmente alors leurs attaches et leurs dépendances. La seule issue pour le monde actuel, ce n'est pas la privation, je n'aime pas ce mot-là, mais c'est la joie dans le dépouillement. Bon, bah, c'est pas mal. C'est assez lumineux comme vision. Et ce que j'aime relever là, ce que vous voulez relever, c'est que, voyez-vous, on n'arrive à rien sans un travail de rigueur, d'ascèse, sans l'aspect ponos du travail. Seul le ponos permet l'ergon, en quelque sorte. Seule l'acceptation de la pénibilité et d'un effort rigoureux, fidèle, persévérant, permet à une créativité d'émerger. Il y a, je sais pas si vous connaissez Francis Collins. Francis Collins est un médecin biologiste américain qui a dirigé pendant 10 ans le team, enfin, un petit team de 3000 personnes à peu près, qui a décrypté le génome humain. Et il a écrit un livre bouleversant sur Dieu et la science et sur sa conversion. Il était médecin en Afrique, complètement athée. Et puis, seul médecin dans un hôpital de misère avec des gens atteints du sida, enfin des situations vraiment catastrophiques, aucun moyen, rien du tout. Et alors pour lui, d'abord, c'est la science, tout était scientifique, et là, il devait tout aller au feeling, il n'y avait aucun instrument scientifique pour faire des analyses, des choses comme ça, donc il devait tout aller à son diagnostic à partir de sa perception de la réalité, aucune possibilité de vérifier scientifiquement par une analyse ses diagnostics, et puis alors donc complètement démuni par rapport à ce qu'il avait appris aux États-Unis, et puis deuxièmement, il voyait des gens heureux dans cet hôpital de misère, et des gens...